daleka.
Pola voda, non. Sa
non, tere. il faut que tu le dises en slovaque.
Ah oui, en slovaque.
Ah oui.
Zatancujete si so mnou a zoberiete mi za 10 poharov piva?
De n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue.
Campus, Toulouse,
94
MHz, en slovaque. Slovensko, malá krajina s veľkým srdcom.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Campus FM, il est 17h, c'est l'émission, comme chaque deuxième lundi du mois, La Fabrique d'un autre monde possible qui commence, en partenariat avec Attac, et c'est donc Jean-Michel au micro, comme chaque mois, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Majid, qui bonsoir. Est avec nous également. Ce soir autour de la table, donc, nous sommes quatre, avec Anouk,
bonsoir.
D'Attac, et Benjamin également.
Bonsoir.
Et Michel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Michel, qui va s'occuper en particulier du sujet de ce soir en tant qu'expert. Et pourquoi le sujet de ce soir? On va parler d'alimentation, semences paysannes. On avait abordé ce sujet-là le mois dernier dans le cadre de l'émission sur le Forum Social Mondial, puis sur un petit focus où on avait traité un petit peu ce sujet-là. Mais là, on a décidé de faire une vraie émission complète d'une heure sur ce thème-là. Ben en fait, il se trouve que c'est le printemps, que c'est le moment des semis, des plantations, que c'est un sujet important aussi de façon plus générale pour la biodiversité, pour peut-être la souveraineté alimentaire, pour ben, le droit et la liberté de chacun de s'alimenter. Et donc, on va faire une émission sur ce thème-là ce soir ensemble. Alors, peut-être pour commencer... Est-ce qu'on parle de quelques brèves, comme on fait traditionnellement dans notre émission, qui a des sujets, on a parlé de l'ANI, il y a le vote en ce moment.
Il y a la transposition dans la loi de l'ANI, et du coup on en parlera peut-être à la fin dans l'agenda social, puisqu'il y a une manifestation unitaire demain.
Ouais, très bien. Après, il y avait quoi comme autre sujet? Notre-Dame-des-Landes peut-être?
Saint-Azad, ouais.
Ouais, on peut faire un petit point sur Notre-Dame-des-Landes où la lutte continue sur place et il y a quelques événements qui arrivent là avec le printemps qui arrive. Donc le week-end prochain ou le week-end qui suit, c'est Semtazad. Donc ça a été mis en place pour tout simplement semer sur une grande partie des 2000 hectares pour réoccuper les terres et les utiliser de manière utile plutôt que pour un projet pour certains inutile. Et il y a aussi un événement, c'est début mai, entre le 5 et le 10 mai, c'est une chaîne humaine qui est faite où on appelle, enfin la ZAD appelle les gens à venir de toute la France pour faire une chaîne humaine un peu comme on avait fait pour le nucléaire il y a quelques mois du côté de Lyon et d'Avignon pour montrer voilà, la solidarité au niveau national et pour montrer que l'opinion publique n'est pas forcément pour ce projet.
Ouais, très bien, merci.
Bah c'est déjà bien. Hein.
Ouais. Mm-hmm. Si peut-être on va pas en rajouter une, fin un petit peu, on peut en rajouter une louche si quand même les paradis fiscaux, le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux. Bon, faut pas oublier ce sujet-là. On prépare peut-être une émission nous à Attac là pour un des mois prochains. Je sais pas si ce sera mai ou juin, mais on se pose la question de faire une émission dédiée sur ce thème-là pour les mois qui arrivent là.
Il y a une pétition en ligne et apparemment il y a eu tellement de signatures qu'il semble que le site ait eu quelques
saturé.
Problèmes.
Ouais. J'ai vu ça, ouais. En effet, sur le site d'Attac France, hein, allez voir, il y a une pétition en ligne. Il faut la signer, il faut la faire diffuser. J'espère que le site va vite reprendre parce que je crois qu'on a dépassé de loin les 20 000. Enfin,
c'est énorme. C'était pas prévu, quoi. C'était pas prévu. Ça n'avait pas été envisagé au moment de la construction du site. Quoi.
Ouais. Voilà. Alors, pour ce soir.
De quoi on parle ce soir?
De quoi on parle? On va parler des semences de l'alimentation. Alors, j'ai regardé en préparant l'émission quelques infos sur le net et. Il se trouve qu'en France, la filière semences représente plus de 70 entreprises de sélection. Alors on verra, Michel, plus tard, hein, ce que c'est exactement ces 70 entreprises. Je crois que j'avais retenu qu'en fait, sur les 70, il n'y en a pas tellement tant que ça qui sont si significatives et importantes. Il y a 225 entreprises de production, il y a 18 000 agriculteurs multiplicateurs. et 22 000 distributeurs, tout ça pour produire des semences, des graines, pour fournir aux agriculteurs professionnels et aussi à une quinzaine de millions de jardiniers amateurs. Donc c'est important, c'est même très important. Ça couvre 330 000 hectares de production et 1 300 000 tonnes voilà, de semences. Bon. C'est un état que j'ai trouvé sur le net, un truc un peu factuel, pour proposer un petit peu les chiffres de quoi on parle.
C'est Dugnis, hein, c'est pas un acte à trouver ça, non,
non. Peut-être, ouais.
Ouais, je pense qu'il est bien informé, ce
peut-être
site.
Bien, hein, ouais. Ouais, je crois que c'est ça.
Groupement national interprofessionnel des semences et des plants, ouais, Dugnis. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Alors j'ai vu aussi qu'en effet, en France, il y avait un groupe français qui était extrêmement bien placé mondialement, qui s'appelle Villemorin-Limagrain, qui est le premier groupe français semencier. C'est... il est présent sur le marché nord-américain. Il est au deuxième rang mondial des semences potagères pour les professionnels.
Oui, c'est une coopérative, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Voilà.
C'est une coopérative multinationale, disons.
Ouais, 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 ouais. Et la France est le premier producteur de semences en Europe et le deuxième producteur exportateur mondial, après les Pays-Bas et devant les Américains, les États-Unis. Donc ça paraît très bien tout ça. Tout est beau, tout. Mais bon, quand on regarde un petit peu, moi, en regardant les variétés, les plantes, tout ça, il se trouve que finalement, depuis la migration des plantes, hein, des tomates, on en parlera peut-être, ou des pommes de terre, etc., qui ont été découvertes aux États-Unis, en Inde, en Chine, ou ailleurs, elles ont migré.
C'est plutôt aussi.
Elles ont été implantées dans différents endroits, elles ont été multipliées, sélectionnées. Et en fait, il y a en général plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de variétés, enfin de variétés de la même espèce. On parle des pommes de terre, je ne sais plus si c'est 4000 ou 10 000. Enfin,
c'est plutôt l'Amérique andine, hein, tout ça.
Voilà. Et donc, on a des variétés extrêmement nombreuses de produits, de semences. Et en fait, quand on regarde dans les catalogues, c'est juste quelques centaines. Et dans les marchés, dans nos assiettes, c'est quelques dizaines et parfois même moins. C'est-à-dire que l'alimentation de chacun, depuis notre petite enfance jusqu'à la fin de notre vie, on va manger peut-être 3 sortes de tomates différentes dans toute notre vie. Peut-être 10, on va dire, mais... Mais donc, ça pose question, quoi. Ça pose question vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la biodiversité? Quel est le maintien de toutes ces variétés dans le monde ou pas? Est-ce qu'on est en train de faire disparaître des choses? Il semblerait que oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'alimentation humaine? Est-ce qu'on a une liberté de choix ou pas? Qui décide? Donc voilà, j'ai envie de poser un peu toutes ces questions, Michel, à toi. Alors, peut-être rappeler que à part faire partie d'Attaque, tu es aussi faucheur volontaire, tu fais partie, tu es chargé de la veille juridique dans le réseau Semences Paysannes.
Oui, je suis administrateur du réseau Semences Paysannes. Je ne suis pas typiquement chargé de la veille juridique, mais je travaille dessus avec les personnes qui sont chargées de la veille juridique. Voilà.
Tu es membre fondateur de la Pétaniel.
Pétaniel, c'est une petite association locale située sur le Tarn et la Haute-Garonne qui relie des paysans et des jardiniers. Disons que ce sont des paysans boulangers, hein, qui ont des collections de blé, de variétés paysannes. Et entretenir une collection, c'est compliqué. La collection est entretenue par les jardiniers. C'est 1 mètre carré de blé, par exemple, dans un jardin. Et ça marche assez bien. C'est très convivial et on voit des choses, on touche du doigt des choses que les jardiniers n'ont pas l'habitude de regarder, quoi.
Ouais. Ouais. Alors voilà, le problème c'est ça, toutes ces variétés, la France bien placée pour faire des semences et exporter, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, je voudrais ajouter à la description que tu as faite une petite chose, c'est qu'effectivement tu as dit que les nombres de variétés avaient beaucoup décru, mais ce qui a le plus décru, c'est la diversité à l'intérieur des variétés, ce qu'on appelle la diversité intravariétale. Ça c'est super important. Pourquoi c'est important? C'est les mécanismes de l'évolution. Quand il y a des populations qui ont des diversités de génétiques, eh bien, ils sont capables de s'adapter. Il y en a qui s'adaptent moins bien et d'autres qui s'adaptent bien. La diversité dans une variété, c'est un facteur d'adaptation. Ça, c'est très important. Et c'est une des propriétés des semences avant la révolution verte. Mmh. Hein? Alors ça, peut-être qu'il faudra faire un petit parcours historique pour voir comment, en combien de temps tout ça s'est changé, combien de temps ça a duré, tout ça. Ouais. Ça peut être intéressant, si tu veux. On peut
commencer par là, peut-être.
Oui, alors je pense que c'est bien. Alors, disons que l'agriculture, bon, d'après ce qu'on sait, hein, elle commence avec le néolithique, c'est de l'ordre de 10 000 années. Hein. Bon, on passe de l'état de chasseur-cueilleur à l'agriculture, ce qui a profondément modifié les sociétés, bien entendu. Et disons que à la base de l'agriculture, ou le premier maillon de la chaîne, disons, c'est bien sûr, c'est la semence. Hein. Et pendant toutes ces milliers d'années, ces semences, elles avaient un certain nombre de particularités qu'il est bon de rappeler. C'est que d'abord, c'était des semences qui étaient produites par les paysans dans les champs des paysans, mais avec des règles parfois très sophistiquées d'échange. Parce que même s'ils n'avaient pas eu de cours de génétique, ils savaient très bien qu'il fallait en permanence renouveler la génétique. Donc les plantes étaient à la fois des plantes de pays, mais il y avait aussi la notion d'échange d'un village à l'autre, etc. Puis beaucoup de toute façon, les semences, les variétés dont tu parlais, elles sont apportées d'Amérique latine. Il a bien fallu qu'aussi elles migrent tout ça. Hein. Bon, alors ça c'est une première chose. C'est les variétés paysannes, c'est les variétés faites par et pour les paysans et pour nourrir les gens, bien entendu. Et la deuxième propriété, on vient d'y faire allusion, c'est que ce sont ce qu'on appelle des variétés population, c'est-à-dire qu'elles ont une grande diversité à l'intérieur de la variété et donc la capacité de s'adapter. Et c'est pour ça que ces semences donnent des variétés qui n'ont pas besoin de béquilles chimiques pour pousser. Je dis pas que c'est pas parfait. La vie est toujours beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Mais ces semences-là permettent d'avoir de très bonnes productions sans les intrants chimiques. Hein. Faut savoir que les semences industrielles ont été sélectionnées pour valoriser les intrants et notamment l'azote chimique de façon à avoir des rendements plus importants. Mais avec ça, on les a un peu déséquilibrés, donc il a fallu rajouter les pesticides. Enfin, c'est une chaîne sans fin dont tout le monde a entendu parler. Hein. Voilà, donc cet aspect population, et je pense pour bien illustrer ce que c'est qu'une population, on n'est que quatre ici, on peut se regarder, on sait qu'on a tous le même génome, et pourtant on est tous des individus différents les uns des autres. Une population, c'est ça. Si vous prenez une classe d'élèves, eh bien, ils ont tous le même génome, mais ils ont des particularités qu'il faut qu'on peut les distinguer sans problème. C'est ça une population. Alors que si les humains étaient à l'image des blés qu'il y a maintenant dans les champs des agriculteurs, eh bien on serait tous des sosies, ce qui serait quand même assez profondément triste. Hein. Voilà, je voulais juste faire cette petite remarque. Et la troisième propriété des semences, qui est quelque chose de fondamental aussi, d'essentiel, c'est qu'elles ont toujours été régies par des droits d'usage collectif. Hein. Elles avaient un caractère sacré, il y avait beaucoup de savoir-faire, et ça c'est très important. On était sur des règles d'usage hein, qui savaient d'ailleurs, quand les gens ne respectaient pas les règles, eh bien on pouvait les exclure. Hein. Enfin, c'est toute la notion de la gestion des communs, peut-être qu'on abordera tout à l'heure, et c'est comme ça que c'était envisagé. Et en l'espace de quelques décennies, ces droits d'usage collectif sont devenus des droits privés des entreprises. Hein. Enfin ça, je pense qu'on va le détailler un petit peu. Alors ça, si vous voulez, ça dure environ 10 000 ans. Hein. Après, si on regarde un peu avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait quelques semenciers historiques, parce que le métier de semencier n'existait pas avant. Il est apparu, je crois que c'est au 19e siècle qu'il est apparu, et notamment Villemorin, hein, c'est un semencier historique qui faisait certainement du très très bon boulot. Hein. Et ça, c'est avant la guerre. Bon, mais il y a encore plein de paysans qui font leurs semences, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est après la guerre que là ça change complètement avec deux périodes, celle des Trente Glorieuses, en gros, puis celle qui a après. Et pendant la première partie, alors là, il fallait reconstruire le pays, hein, l'Europe était dévastée, il fallait nourrir la population, et là, il y avait des États forts qui voulaient reprendre les rênes et tout ça, et ils ont pris les rênes aussi pour l'agriculture. Et donc, ils ont beaucoup développé les variétés au rendement, ils ont introduit les hybrides, il y avait les hybrides américains qui étaient arrivés, mais l'INRA était chargé de développer ces hybrides, et là, en l'espace, en plus, il y a eu des contraintes par rapport au catalogue, parce qu'on ne peut pas commercialiser une semence s'il n'est pas inscrite au catalogue. Et c'est des contraintes très strictes d'homogénéité de stabilité. C'est-à-dire que pratiquement, pour pouvoir inscrire au catalogue, il faut que ça soit un clone. Il faut que ça soit des clones, les semences. Ouais. Donc pour la biodiversité, effectivement, c'est pas très bon. Mais tout ça s'est conjugué. Et dès les années 60, bien avant les OGM, dont on va dire un mot quand même tout à l'heure, dès les années 60, les semences paysannes avaient déserté les champs des paysans. Mmh. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. Mais et disons que ça a perduré comme ça. Et dans les années 80, alors là je ne vais pas vous l'apprendre, on a vraiment changé de modèle. On était dans les Trente Glorieuses, c'était le keynésianisme qui était quand même très présent, et affaibli vers la fin. C'est les monétaristes qui ont repris le dessus. Et là, c'est le désengagement de l'État partout, hein, partout, et en même temps la montée en puissance des multinationales et de la finance. Bon, ça c'est, alors, on appelle ça le néolibéralisme, la révolution conservatrice, tout ce que vous voulez, peu importe, on peut donner tous les termes qu'on veut, mais ça c'est un phénomène majeur, et là, ce sont des firmes qui prennent vraiment le dessus là-dessus, et arrivent en même temps les droits de propriété intellectuelle. 80, il faut savoir que c'est aussi la première fois l'autorisation du brevet sur le vivant, hein, aux États-Unis. Il faudra attendre 98 pour l'Europe, mais 80 pour le... Et là, les firmes alors déposent des tas de brevets et tout ça. Alors, ils font des semences de plus en plus technologiques, hein, et le bouquet arrive dans, au milieu des années 90 avec les OGM. Mmh. Alors les OGM, en Amérique, ça n'a pas posé de problème. De toute façon, ils disaient pas que c'en était, donc ils l'ont distribué. Il y en a plein partout, et il y a des endroits où même plus du colza, par exemple, au Canada, c'est du colza non OGM. C'est un peu impossible à trouver. Hein. En plus, ça se contamine, tout ça. Donc, mais en Europe et particulièrement en France, il y a des gens qui ont pris peur en se disant. Et les premiers qui ont réagi, si vous voulez, c'est des gens qui étaient dans des itinéraires un peu particuliers, bio, les biodynamiques, ceux qui étaient dans les circuits courts. Ils se sont dit, on va plus avoir accès aux semences dont on a besoin, c'est en train de se privatiser. Pour la première fois, il y avait quand même un brevet sur le vivant, enfin sur les plantes. Ouais. Hein, c'était, puisque les OGM, c'est ça, c'est un brevet sur un gène de la plante. Mmh. Et là, il y a eu deux types de réactions qu'on peut considérer comme complémentaires, sachant qu'assez souvent, on retrouvait les mêmes acteurs dans l'un et dans l'autre. Il y a eu un mouvement pour les semences paysannes, qui ne s'appelait pas trop comme ça à l'époque. C'est-à-dire, c'est des paysans qui étaient donc dans les itinéraires dont je parlais à l'instant, et ils se sont mis à rechercher des variétés d'avant la Révolution verte, hein, parce que la Révolution verte, ça consistait à créer ces variétés à haut rendement, etc. Et donc, ils sont allés chercher chez les vieux, là, ils avaient entendu parler qu'il y avait des gens qui avaient fait du pain, des trucs comme ça, et ils ont été aussi dans les banques, que l'INRA, ils avaient récolté pas mal de choses. Et il y a un mouvement très informel qui s'est mis en place. Et ce mouvement a été concrétisé, en France du moins, en 2003, par la création du réseau des semences paysannes. Hein. Donc on fête cette année les 10 ans du réseau des semences paysannes. Voilà. D'ailleurs, on pourra en parler un mot parce qu'il y a un certain nombre d'activités là qu'on va mettre en place. Et ça c'est le premier mouvement pour les semences paysannes. D'accord. L'autre mouvement, c'est le mouvement anti-OGM, qui a été très, très fort au début. Au début, complètement mené par la Confédération paysanne, et José Bové en tête, hein, ça, je pense que vous connaissez l'histoire. Et puis, il y a eu quand même pas mal de procès. La Conf y a perdu beaucoup d'argent et ça s'est essoufflé un peu. Et sur le plateau du Larzac, un des compagnons de l'Arche, qui s'appelle Jean-Baptiste Libouban, a dit « c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui payent, il faut que les citoyens s'emparent aussi de... ». Et il a été créé, en 2003 aussi, le collectif des faucheurs volontaires. Hein. Donc, 2003, c'est la création de ces deux choses-là. Et moi, la plupart des interventions que je fais, je suis pas le seul, c'est de dire OGM et semences paysannes, les deux facettes d'un même combat. Mmh. Hein. Et on peut pas... Alors, on aura peut-être pas le temps de tout voir, mais les contaminations possibles et avérées par les OGM, pour nous, c'est un véritable problème. Hein. Enfin, bon, on en reparlera peut-être un petit peu après. Voilà un peu ce contexte. Donc, c'est différentes périodes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les multinationales, comme ce sont des semences biotech, avec des coûts de transaction à cause de la propriété intellectuelle qui sont extrêmement chers, ça a créé une super concentration du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez moins de 10 firmes qui détiennent 50% du marché des semences. En Europe, ils détiennent quasiment tout. Par contre, dans le reste du monde, il y a encore beaucoup, beaucoup de pays, dans les pays du Sud, notamment en Amérique latine, mais pas seulement. Hein. Et ils font, c'est les semences paysannes. Hein. Ils sont pas encore rentrés là-dedans, mais par contre, ils essayent d'y rentrer de façon un petit peu brutale. Donc ces multinationales qui ont pris, en plus ces multinationales, pour la plupart, sauf l'Imagrin, c'est une exception, mais ce sont en plus des agrochimistes. C'est-à-dire, c'est les gens qui vendent en même temps les pesticides, donc qui vendent le kit technologique complet, le brevet, tout ça. Et ils sont devenus très puissants. Mmh. Et du coup, ce qui est intéressant, mais je vais peut-être vous laisser un petit peu poser des questions, mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies qu'ils ont développées, et une conquête du vivant, quoi, l'appropriation du vivant.
Ouais. Tu as parlé du catalogue, Michel, tout à l'heure, ouais. et en disant, en gros, le catalogue impose, on a fait de la reproductibilité de la semence, une pureté, enfin, entre guillemets, quelles sont les raisons de ces exigences-là, finalement? Parce que c'est presque ça la source du problème, on va dire.
C'est une des sources du problème. C'est parce qu'il y a plusieurs systèmes. Mais là, c'est une très bonne question parce que le catalogue, il est lié au droit de propriété intellectuelle. Hein. Alors là, on rentre un peu dans le détail, mais je pense que je suis obligé de le faire. Il y a le droit de propriété intellectuelle le plus connu, celui dont tout le monde a entendu parler, c'est le brevet. Hein. Et le brevet, ça, c'est plutôt américain. Il y en a de plus en plus en Europe. Je parle des plantes, hein. Mais c'est quand même à l'origine, c'est américain. Mais les Européens ont développé un autre système de protection intellectuelle qui s'appelle le COV, Certificat d'obtention végétale. Alors c'est un peu différent. Il est moins contraignant. Il est moins contraignant parce que on peut utiliser une semence protégée pour en développer une autre, en faire des croisements, par exemple. Donc il n'y a pas la propriété sur la succession.
Sur l'utilisation de.
Sur l'utilisation du génome, quoi. Ouais, on peut réutiliser à condition de ne pas faire tout à fait pareil, quand même. Parce que là, il y a des clauses assez sévères, quand même. Et donc. Ce sont des certificats qui portent sur les variétés. Et le problème, c'est que pour pouvoir faire valoir ses droits, il faut pouvoir reconnaître les variétés. Donc il faut quelque chose, une description très, très, très dure. Tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle la DHS, distinction homogénéité et stabilité. Donc quasiment des clones. Enfin, je caricature un peu, mais pour des espèces comme le blé, tout ça, c'est vraiment des clones. Pour les carottes, moins, parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais voilà. Donc il y a des conditions drastiques comme ça. C'est pour pouvoir faire valoir leurs droits en termes de propriété intellectuelle. Et en même temps, bah, c'est les mêmes contraintes que l'on retrouve pour le catalogue. Hein. Donc c'est les deux, il ne faut pas dissocier les deux. Hein. Il y a une chose qui est pour le commerce et l'autre pour la propriété intellectuelle, mais en fait, c'est un peu les mêmes choses. Et là, ils sont extrêmement crispés là-dessus. Il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'Europe. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'affaire Cocopulli, parce qu'il faudrait 3-4 heures hein, pour tout ça. Mais eux, c'est un peu leur survie qui est en cause, mais ils sont très puissants, c'est les Européens. Alors, tu as cité tout à l'heure en France, là, je crois, oui, je crois que c'est 70-72 entreprises. Ouais. Alors, le chiffre d'affaires de ces entreprises-là, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est de l'ordre de 3 milliards. Alors, faut pas croire que c'est des PME. Hein. Il y en a quelques-unes, mais toutes, elles ont été pratiquement rachetées.
Ouais, voilà,
il y a eu des rachats. Monsanto, lui tout seul, c'est pas un Français. Hein. Monsanto a dû racheter une centaine, peut-être plus que ça. On voit des monstres qui se... Ouais.
Voilà, ils rachètent les brevets, les licences, je suppose.
Alors, donc, ce catalogue, hein, ce que dit la législation, c'est qu'on ne peut pas vendre une semence, si elle n'est pas inscrite sur le catalogue officiel, il y a des dérogations. Il y a des dérogations, et notamment, enfin, c'est une dérogation qui est d'ailleurs en train de sauter. On est à peu près sûr qu'elle, enfin, disons, on ne sait pas pourquoi elle saute pas. Il y a une dérogation pour les jardiniers. C'est-à-dire que le jardinier ne faisant pas commerce de sa production, hein, c'est de l'autoconsommation, disons qu'on peut vendre des semences non inscrites à des jardiniers. C'est encore possible actuellement en France, mais avec la nouvelle loi telle qu'elle est écrite, les décrets ne sont pas parus, donc on ne sait pas, mais on pense que, enfin, c'est de fortes chances que ça saute. Et de toute façon, dans les textes européens qui sont à l'étude et qui sont quasiment finis, ça a sauté aussi. Cette dérogation. Donc c'était le seul espace pour le commerce qui restait, celui-là est également en train de sauter. Mais on y reviendra, c'est intéressant.
On peut aussi faire le parallèle avec la justice et les tentatives de commission mises en place à travers l'Europe, la commission sur la biochimie et le génie moléculaire. Est-ce qu'il y a eu des tentatives au niveau européen pour cadrer quand même en fait, ces multinationales?
Oui, enfin, pour les cadrer, j'en sais rien. Disons qu'elles sont toutes puissantes et il y a encore. Alors c'est vrai. Alors je sais pas si tu fais allusion aux OGM, mais c'est vrai qu'il y a eu un conseil des ministres de l'environnement là, c'était en 2010. Ils ont demandé qu'on revoie les évaluations, par exemple. Hein. Et c'est vrai que là les firmes sont plus ou moins obligées d'obéir, mais pour le moment il y a rien eu de fait, quoi. Hein. Elles sont. Alors c'est peut-être pas ça ta question exactement.
Par rapport au conseil des biotechnologies. Son rôle, en fait, par rapport justement...
Le Conseil français, c'est le Haut Conseil des biotechnologies,
oui, hein, tout à fait.
Oui, alors c'est quoi ta question?
L'idée, c'est que c'était quoi son rôle? Est-ce qu'ils ont tenté, en fait, de calmer le lobbying de ces multinationales ou de freiner, justement, le lobby? Parce que c'est une histoire de lobby, en fin de compte.
Ah ben, on est complètement dans le lobbying, mais moi, je pense qu'il faut dire les choses clairement. Tout le monde fait du lobbying. Nous, à notre façon, on fait du lobbying. La seule question, c'est faut voir avec quels moyens et pour qui on le fait. Hein. C'est vrai que quand on travaille pour une firme privée ou qu'on travaille, je pense, dans l'intérêt général pour que les gens accèdent à la connaissance, aux semences, des choses comme ça, c'est pas tout à fait la même chose que quand on le fait pour le profit des actionnaires. Et puis après, il y a les moyens. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison. D'un autre côté, on est assez nombreux. Alors, pour répondre à ta question, le HCB, le Haut Conseil des biotechnologies, il a été mis en place il y a 2 ans maintenant. Il a succédé à la commission du génie biomoléculaire. C'est, oui, je c'est crois ça. Que c'est ça. Oui. Et il est composé de deux collèges, un collège éthique et social, enfin, et un collège scientifique. Hein. Mais le collège éthique et social, c'est une nouveauté quand même. Merci Sarkozy, c'est lui, qui, enfin, c'est grâce à lui qu'on a ça quand même. C'est issu du Grenelle, quoi, hein, du Grenelle. Et sur, lui, il se contente de donner un avis. Hein. Et par contre, c'est le conseil scientifique qui dirige tout. Et pour le moment, nous, on estime qu'il est très pro-OGM. Hein. Et bon. Il y a, je pense, c'est que des scientifiques là. Alors, il y a pas que des gens du génie moléculaire là. Hein. Il y a aussi des environnementalistes. C'est un peu varié, mais c'est, enfin, disons que ils sont quand même globalement, ils sont quand même très pro OGM. Et surtout, enfin, ce qui est le plus embêtant, je pense, c'est dans la façon de procéder. Et ça, d'ailleurs, ça interpelle un peu tout le monde. Ça n'a pas un grand rapport avec les semences. Ça s'y applique, mais c'est pas directement lié. C'est la façon dont sont prises les décisions. Hein. Vous avez un conseil dans lequel il y a des avis divergents. Alors, ils font une espèce de moyenne, mais ils ne partent pas des divergences. Et ce qui intéresse le public, à mon avis, parce que c'est pas forcément les taux d'experts, c'est là où ils sont d'accord et là où ils sont pas d'accord. Hein. Le consensus et le dissensus, ils doivent être affichés. Et là, ils essayent de trouver un consensus mou qui noie tout le monde. Et ça, c'est des procédés. Enfin, de toute façon, la plupart des groupes de cette nature fonctionnent comme ça. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Voilà. Moi, j'en dirai pas plus. Il est là pour conseiller les politiques. Bon. En France, on est un peu peinard quand même parce que le Mont 810 est toujours sous le moratoire. L'année dernière, il a failli sauter quand même.
On rappelle le Mont 810, ce que c'est.
Ben c'est le maïs de Monsanto qui est résistant, enfin qui a été modifié pour sécréter un insecticide qui tue des insectes ravageurs de type pyrale ou chrysomèle ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Et lui, il est toujours sous moratoire. C'était la seule culture autorisée avec une patate qu'on voit plus du tout. Et donc, on n'a plus de gemmes cultivées. Par contre, il en arrive des millions de tonnes par les ports, hein, oui. Du maïs et du soja, hein, pour nourrir les animaux. Donc on est très très loin d'être sans OGM. Alors du coup, on change un peu de sujet. Hein. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les OGM cachés. Hein, c'est des tournesols qui ont été mutés pour résister à des herbicides. Maintenant, c'est des colzas. Et là, alors la solde de tournesol doit représenter 30 ou 40% dans ces variétés-là. Actuellement, hein. Et sur le colza, ben, on a appris par le ministère, il y a pas longtemps, qu'ils en avaient fait 1000 hectares, et c'est pour continuer à développer. Donc, enfin, ces gens-là, ils ont énormément de puissance, ils veulent imposer une technologie dont personne ne veut, hein. Enfin, il y a peut-être quelques agriculteurs qui les veulent, mais voilà, ils ont beaucoup de force pour imposer ça, et pour ça, comme pour les paradis fiscaux, tout ça, on trouve que les gouvernants sont impuissants ou font semblant de l'être ou le sont, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose. Il y a une collusion invraisemblable entre la puissance politique et les multinationales. Quoi. Et ça, c'est vraiment depuis les années 80. Hein.
Ouais. D'accord. Il y a encore des pare-feux. Il y a quand même encore des boucliers en fait juridiques qui empêchent, par exemple, l'implantation du Mont 810.
C'est pas l'importation.
Non, l'implantation, j'ai dit.
Ah non, l'importation. Oh, bah, non, alors là, il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont autorisés. Moi, je les ai pas en tête. Mais en ce qui concerne la culture, il y en a pas actuellement sur le sol. Hein. Mais il y a 6 ou 7 pays européens pour lesquels c'est interdit aussi. Et les autres, enfin, celui qui nous embête le plus, c'est l'Espagne. Hein. Eux, ils ont cultivé massivement en Catalogne et dans les Asturies.
D'accord.
On se fait une pause musicale, Majid.
Oui, on va écouter The Black Seed, ce qui veut dire en anglais la graine noire, graines noires.
Les graines noires.
Et c'est du reggae, et le titre c'est Struggles, pour ceux qui se battent et qui luttent contre cette hégémonie, on va dire. On écoute ça.
Super.
Water in the well, and no food for the fire. to stay. It doesn't take much to lend your hand and give to those less fortunate what they cannot give themselves. You can close your eyes, it won't go away. Burgers and fries or the struggle pains. You shoo off the fire, still hang around, feel the vultures staring down at you. You can't hide from what you know is true. There's always someone else worse off than you. And if there was something that you could do, would you reach out and do it? Intelligent people of this land, help with your neighbor if you can. Don't be afraid to lend your hand. Take what you need, give what you can. Do it, give what you can.
Au contraire.
Campus FM.
Parce que
allô, oui, pardon. On est toujours donc à l'antenne ensemble sur les ondes de Campus FM 94. Il est 17h31. Il ne nous reste qu'une demi-heure déjà pour compléter, finaliser ou en tout cas tenter de permettre aux gens qui nous écoutent de comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est quand même compliqué en fait. C'est vachement technique en fait.
Les semences et l'alimentation, oui.
Ouais.
On va parler. Alors on a commencé à aborder le sujet à travers quelques chiffres de la production en France et des règles qui imposent aux paysans d'acheter des semences et pas de les échanger entre eux, etc. On va peut-être continuer un petit peu sur ces aspects entre guillemets un peu techniques, juridiques, mais surtout ce qu'on veut arriver à faire à la fin, c'est comprendre la problématique vis-à-vis de l'alimentation et qu'est-ce qu'on peut faire chacun qui a un jardin dans sa coloc pour planter un petit potager ou qui a la chance d'accéder à des jardins partagés ou je sais pas sur les ronds-points dans Toulouse où est-ce qu'on va acheter nos graines et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a envie de manger demain quoi. Enfin demain ça veut dire pas très longtemps, c'est-à-dire si on plante maintenant on va récolter au mois d'août. Alors Michel.
Bon, d'abord il y a un échange entre jardiniers qui fonctionne relativement bien quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut connaître des jardiniers tout ça, mais il y a un certain nombre de semences qui sont relativement faciles à reproduire, comme les tomates, des choses comme ça. Quand on veut faire des choux, des poireaux, c'est beaucoup plus compliqué. Avec un peu de technique, on peut y arriver, mais sinon il y a quand même un peu partout il y a des bourses d'échange de graines. Et ça, il y a des gens qui nous font croire que c'est interdit. Ça, c'est il n'y a pas de loi là-dessus. Hein. Il n'y a pas de loi là-dessus. La loi arrive avec la commercialisation des semences, mais il faut savoir que l'échange a un niveau important comme niveau paysan, enfin niveau agriculteur, quoi, l'échange est considéré comme de la commercialisation. Ouais. Mais entre jardiniers et tout ça, il n'y a pas de problème. Pour le moment, comme je disais tout à l'heure, on peut encore acheter des semences non inscrites sur le catalogue. Et là, il y a quand même des artisans semenciers que je vous recommande très très fortement à tous. Moi, je m'alimente toujours chez le même, qui s'appelle le Biogerme, B-I-A-U-G-E-R-M-E. Et il fait partie d'un ensemble de producteurs. C'est donc des artisans semenciers et ces producteurs, ils sont rassemblés dans l'association Les Croqueurs de Carottes. Et moi, je suis très satisfait. Je sais qu'ils font un très très bon boulot. Je les connais bien en plus. Moi, je m'alimente toujours là. Et moi, et j'évite à tout prix les jardineries, hein, pour acheter des semences.
Ouais, bah oui.
J'achète quand je suis en rupture de stock, j'y vais, mais vraiment à regret. Et bon, je dis pas que ce sont des mauvaises graines, hein, je dirais pas ça, mais moi je veux faire travailler ces artisans semenciers qui font un super boulot et qui n'hésitent pas à donner des semences qui sont des variétés anciennes, j'aime pas le terme, mais c'est des variétés paysannes qui sont variées, tout ça. Moi je trouve ça très intéressant. Donc allez plutôt, alors vous trouvez ça sur internet, c'est très facile.
Les croqueurs de carottes, l'association.
Oui, alors l'association, c'est les croqueurs de carottes. Ouais. Alors je me souviens plus s'ils ont un site. Sinon localement, c'est pas très loin, c'est Lot-et-Garonne, c'est donc Biogerm, B-I-A-U-G-E-R-M-E. Mm-hmm. Et aussi pas très loin, c'est dans l'Aude, c'est Graines del País. Hein? Et là aussi, ils font partie de la même association. Et l'association Croqueurs de Carottes est adhérente du réseau des semences paysannes. C'est un des adhérents importants.
D'accord. Graines del País.
Graines del País ou Biogerm. Après, c'est plus loin. Il y en a du côté du Rhône. Il y a Germinance, mais c'est plus au nord. C'est du côté du Maine-et-Loire. Autant se servir un peu localement. Hein,
ouais. Et tous ces gens, ils envoient les graines par la poste, en fait. On doit
commander. Oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. Ils ont un très bon catalogue, mais tout ça, c'est en ligne. Hein. Ça, moi, j'évite. En deux jours, ça arrive. Hein.
Donc, très bien.
Peut-être revenir aussi sur l'impact politique, enfin, c'est-à-dire tout ce mouvement de privatisation qui pose problème, enfin, comment se réapproprier les moyens d'alimentation, les moyens de production, et aussi en quoi cet impact politique il est plus large et il concerne pas seulement le monde paysan finalement.
Alors, ça aussi c'est plus qu'une bonne remarque, hein. C'est que maintenant, surtout dans nos pays, les paysans, les agriculteurs, disons qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont d'ailleurs, pour beaucoup, dans une situation très précaire. Il y en a qui sont richissimes, mais il y en a quand même la majorité qui est dans une situation très précaire. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même la profession où le taux de suicide est le plus élevé, aussi, quand même. Donc, alors, à côté de ça, il y a ceux qui sont dans les alternatives dont on parlait. Enfin, moi, je connais bien, par exemple, les paysans boulangers. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pour à notre avis, hein, pour un agriculteur, c'est de ne pas produire de la matière première pour l'agro-industrie. Parce que là, si on n'a pas 300 ou 400 hectares, on ne peut pas vivre. Donc, il s'agit de valoriser les produits qu'on fait, soit par la qualité, soit par la transformation. Et c'est vrai que les paysans boulangers, par exemple, ou les paysans meuniers, eh bien, ils participent à la transformation et la valeur ajoutée leur revient. Et les paysans boulangers que je connais, ils vivent sur 30 hectares. Hein? Alors que la Chambre d'agriculture vous dira que si on n'a pas 200 ou 300 hectares, on ne peut pas vivre en tant que paysan. Donc là aussi, il faut déconstruire ce discours. Et nous, on est sur des projets actuellement. Quand on veut installer les paysans boulangers, c'est ce type de choses qu'on va faire. Sur un territoire de 100 ou 200 hectares, on peut installer 10 familles. Et non pas une partie de quelqu'un qui a déjà 1000 hectares. Quoi. Voilà, c'est très important. Hein. Alors... Disons que sur le plan, je dirais politique, et ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment compréhensible par tout le monde, mais c'est vraiment le cœur du problème. Il y a deux problèmes principaux, au-delà de la technique, tout ça. Il y a le premier, je l'ai déjà cité, mais je réinsiste dessus, c'est l'appropriation du vivant, et donc des semences par quelques firmes. Imaginez que les principales ressources alimentaires sont à la merci, en tant que production et diffusion de quelques firmes, c'est moins de 10. Alors ça, c'est plus qu'inquiétant, c'est un véritable totalitarisme, c'est l'arme alimentaire. Ça n'est politiquement, socialement, ça n'est pas acceptable.
Et ça me fait penser à une citation de Henry Kissinger qui disait « Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlerez le peuple ».
Oui, et alors tu peux rajouter « Contrôlez les semences et vous contrôlerez l'alimentation ». Voilà. Donc on peut actualiser Henry Kissinger. Bon, ça c'est la première raison, et c'est une raison purement politique. Hein. Et je veux dire que si les citoyens se prennent en charge, faut pas, enfin les gouvernements là-dedans, enfin ils suivent là où ça pousse le plus fort, hein, de toute façon. Mais bon, ils connaissent, hein, ça, ils en sont sensibles. Mais enfin, le moins qu'on peut dire, c'est c'est pas sûr qu'ils font tout ce qu'il faut. Mais le deuxième problème. Enfin, ce que je veux dire, ça c'est un élément politique, et ce qui a été construit par la loi, en quelque sorte, ces droits de propriété intellectuelle, peut également être défait par la loi, hein, puisque ça c'est le principe de la démocratie aussi, donc c'est important. Mais l'autre problème, c'est celui de la biodiversité. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'il n'y a aucune commune mesure entre la biodiversité qui est spontanément créée par des millions de paysans, comme c'est encore dans les pays du Sud, et celle qui est produite artificiellement dans des champs artificialisés, dont tu as donné le nombre tout à l'heure, par des paysans avec des intrants où il faut que toutes les choses soient bien réglementées et tout ça, hein, sachant que les semences n'ont plus de diversité non plus. Et là, on n'est pas dans un rapport de 1 à 2, hein. C'est, on est un rapport de 1 à 1000 ou 1 à 10 000, je sais pas exactement. C'est très bien dit par un certain nombre de scientifiques. À partir du moment où les semences ne sont plus dans les champs des paysans et sont produites dans le laboratoire, sont reproduites dans des champs artificialisés et enfin vont dans les champs des paysans, on a complètement inversé le schéma. Hein. Ce qu'il faut voir, le schéma initial qu'on essaye de recréer, nous, c'est ce qu'on appelle en particulier la production ou la conservation in situ sur le site. Ben c'est que il y avait des millions de paysans sur des millions de territoires avec des millions de climats, tout ça, et tout ça, ça crée une biodiversité fabuleuse. 75% qui a disparu, hein, c'est les chiffres de la FAO. 75% de la biodiversité cultivée qui a disparu en quelques décennies, pas en quelques années. Donc on peut refaire beaucoup de choses, et en plus, si vous voulez, si on regarde le catalogue. Le catalogue peut très bien se comprendre pour des grosses masses, hein, parce que l'industriel, qu'est-ce qui l'intéresse ? Lui, il travaille sur l'économie d'échelle. C'est un principe industriel, je ne le reproche pas. Hein, standardisation, économie d'échelle. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est la graine qu'il appelle élite, hein, la semence élite, qu'il va pouvoir vendre à des millions ou des milliards d'exemplaires. Et c'est là-dessus qu'il va faire son chiffre. Mais ça, encore une fois, c'est un processus industriel. Je ne critique pas en tant que processus industriel. Et qu'on applique ça à l'agriculture, alors ça... Là, par contre, c'est complètement contestable. Alors que, donc, lui, il cherche à avoir quelques, un peu comme en pharmacie, le blockbuster, là, le truc qui va rapporter des milliards. Et à côté de ça, vous avez le paysan qui a ses semences qui sont différentes de celles du champ voisin. Comment voulez-vous qu'il inscrive ça sur un catalogue? Le catalogue, alors, il faudrait des volumes entiers. Ça ne serait plus de sens. Il faut laisser la liberté aux paysans de continuer à faire, à échanger leurs semences. Alors ça, on peut parler des revendications qu'on demande, parce que le problème, c'est que les lois, elles sont toujours de plus en plus restrictives. Je peux faire la liste des...
C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que le catalogue, lui, en fait, il impose des contraintes que les variétés paysannes ne peuvent pas suivre.
Elles ne peuvent pas.
Et donc, il conduit à une production industrielle des semences, et donc il conduit à un monopole en gros de grosses sociétés.
Eh ben oui, tout à fait.
Qui s'engouffrent dans ce chemin-là, qui leur a été finalement tracé pour elles quasiment.
Alors,
nous, ce qu'on veut faire, c'est. On peut dire le catalogue finalement, si on autorise les paysans à échanger et à vendre entre eux leurs graines, le catalogue ne nous gêne pas.
Oui.
Tant qu'il n'y a pas interdiction,
oui,
on peut faire autre chose à côté.
Alors, il y a quand même une chose. Il existe un catalogue dit de conservation, parce qu'il y a eu quand même des demandes, mais ce catalogue de conservation ne correspond pas à ce dont on a besoin. D'accord. Il permet 10% de hors-type, quoi. Ouais. Et sur les populations, c'est parfois 100 ou 200% de hors-type. Et ça ne peut pas marcher. Alors, ils ont fait ça, et finalement, il y a très peu qui se sont inscrits. Ouais. Alors, nous, on n'est pas contre la commercialisation, hein. Je pense qu'il faut être clair. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est que les paysans puissent échanger comme ils veulent. Quand c'est du gré à gré, ils se le payent pas, c'est pas notre problème, c'est des échanges en nature, et il faut que ça revienne. C'est interdit pour le moment. Hein. La seule chose qui soit autorisée, c'est des échanges pour la recherche ou pour l'expérimentation. Mais c'est pas suffisant.
Et comment les pouvoirs publics justifient cette interdiction?
Eh bien, il dit que ça peut créer un marché parallèle et tout, mais de toute façon, on va aller voir la semaine prochaine, on va leur poser la question.
Il y a aussi un côté, toute la justification sur la dangerosité des semences.
Garde-le pour dans quelques instants, c'est une question cruciale. Je vais parler de nos revendications et on terminera là-dessus. Et alors donc, le marché informel, enfin, c'est même pas un marché, c'est le système informel, il faut qu'il perdure, c'est lui qui a créé la biodiversité, c'est lui qui continuera à la créer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'y ai déjà fait allusion, c'est que pour tout ce qui concerne les cultures vivrières, et en particulier les jardiniers, il ne faut pas d'obligation d'inscription au catalogue. Ça, il ne faut pas. Hein. La troisième demande, et là, on est prêt, d'une certaine manière, à entrer dans la commercialisation, c'est de pouvoir inscrire sur le catalogue des variétés population. Et ça, c'est une demande qui avait été actée au Grenelle numéro 1, au Grenelle 1, et ça n'a jamais été mis en œuvre. Et dans la dernière loi qui a été votée, ils ne l'ont pas mis. Ils refusent la définition des populations. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc il y a quand même une volonté manifeste, on sait d'où elle vient. Hein. Ben, disons qu'ils sont la plume d'un certain nombre de lobbyistes. Et ça, alors après, il y a tout le problème des semences de ferme. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'aborder ça, mais je voudrais revenir sur ce que disait... Voilà. Le problème sanitaire. Hein. Alors ça, c'est très grave. C'est quand il y a eu la loi qui a été votée, elle a été promulguée en 2011, en décembre 2011, alors que le débat parlementaire était fini, le ministre de l'Agriculture est venu imposer trois ou quatre articles supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec la propriété intellectuelle, puisque c'était le sujet de cette loi, mais il est venu imposer des choses qui n'avaient rien à voir, et justement il a parlé de sélection de production de semences, ce qui n'était pas l'objet initial de la loi. Il est venu au dernier moment, alors que le débat parlementaire était fini, déjà le procédé, on peut... Bon. Mais il a introduit notamment...
On peut supposer d'où vient le papier qui lui a été...
Et ça, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont introduit des problèmes de traçabilité, tout ça, et ils font vraiment... Ils mettent le doigt, enfin, la main sur le côté sanitaire. Et ils disent que tout sélectionneur, tous ceux qui produisent des semences doivent pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle, sous contrôle officiel. Et ça... Que ça soit fait pour les gros, ils ont la capacité en plus de le faire, à faire des autocontrôles, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est une façon de fusiller les petits. On le sait depuis longtemps. Quand on impose des normes sanitaires, c'est pour éliminer les petits. Alors, c'est sanitaire et sécuritaire, d'ailleurs, ça sonne un peu pareil. Hein, mais il y a quand même des termes qui ont été utilisés. Hein. Je me souviens quand on était en Écosse l'année dernière, là, pour des réunions européennes sur les semences, là, il y a quelqu'un qui était en direct avec la Commission européenne dans une des commissions, et on a entendu dire là que les semences paysannes sont dangereuses pour la santé humaine. Et pire que ça c'était à l'oral. Mais pire que ça, dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'affaire Cacopelli, dans l'arrêt, il est marqué qu'avec les semences paysannes, on peut mettre en terre, je sais pas, des semences potentiellement dangereuses. C'est marqué deux fois dans l'arrêt de la Cour. Et ça vient... Enfin, je veux dire, c'est signé, quoi. Ils ont peur, finalement. Ils ont peur de nous. Ils ont pas peur qu'on leur foute des maladies, c'est pas ça. Et ils ont peur de nous. Et ils font tout pour éliminer les petits. Mais on résistera,
On peut rappeler aussi qu'il y a des combats perdus par Monsanto. Il y a eu aussi en fait des cas de procès, bon pas forcément en France, mais au Brésil par exemple, des agriculteurs qui sont réunis et qui ont réussi en fait à plier le géant en question, enfin la multinationale, par rapport justement à la double taxation, par rapport au Roundup.
Ben, en Inde, il y en a eu aussi, mais Monsanto, vraiment, il a beaucoup de soucis avec le Roundup, justement, hein, parce qu'il y a plein de plantes qui deviennent résistantes, et du coup, c'est les Européens qui prennent un peu le relais avec les plantes mutées, là. Et c'est une autre classe d'herbicides, et ils sont en train alors, le Roundup était interdit chez nous, les variétés résistantes au Roundup étaient interdites chez nous, hein. Enfin, en Europe, alors qu'elles sont depuis 15 ou 20 ans autorisées aux États-Unis, et du coup, ils ont de plus en plus de mal, hein, parce qu'il y a de plus en plus de résistance. Et je tiens à signaler aussi que les résistances, quand elles apparaissent, c'est en général trop tard, parce que ça veut dire que le processus c'est des processus un peu exponentiels, on double quasiment à chaque étape, et ça va très très vite. Une fois que c'est parti, ça va très très vite. Bon, et donc ce sont les Européens, BASF, et puis l'Américain Pionnier aussi, là, qui donnent ces variétés tolérantes aux herbicides, mais c'est pas la même classe d'herbicides. Alors on en a pour 10-15 ans, j'en sais rien, puis on retombera sur le même problème. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup de soucis avec ça actuellement. Hein.
Et par rapport justement aux problématiques sanitaires, on peut aussi rappeler le cas de cet agriculteur français qui avait porté plainte au tribunal de grande instance contre Monsanto parce qu'il avait été donc radié, entre guillemets, mais en tout cas qu'il avait eu un cancer parce qu'il utilisait justement les pesticides de Monsanto, le Roundup. Et du coup, il a réussi à prouver scientifiquement le lien de cause à effet entre l'utilisation des pesticides et sa maladie, et il a gagné. Donc c'est parmi les pistes peut-être à...
Ah oui, mais des procès, il y en a. Nous, on est en procès aussi. On en a fait, je sais pas combien, hein, une quinzaine. On les a pas tous perdus, mais presque. Mais, ce qui est très important, c'est qu'on a fait rentrer les OGM dans le débat public. Les semences ne sont pas rentrées dans le débat public encore. Hein, et ça, c'est à nous tous aussi, les militants, d'arriver.
On est là pour ça ce soir.
Hein, on est là pour ça ce soir. Mais c'est important. C'est vrai, chez nous, on a un peu perdu la maîtrise des semences. Les agriculteurs ne reproduisent pas leurs semences, à part les semences de ferme, qui sont une chose un peu particulière. Mais sinon, la reproduction, pareil, dans le champ du paysan, c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Même les agriculteurs ne sont pas trop branchés là-dessus, quoi.
C'est ce que j'avais posé comme question. Pourquoi, finalement, le monde agricole, c'est un monde puissant ? Pourquoi le monde agricole, enfin les agriculteurs, je veux dire les paysans producteurs, sont pas...
Ce qui est puissant, ce sont les coopératives, ce sont les syndicats le syndicat majoritaire, ouais. Tout ça, les paysans eux-mêmes, ils sont coincés entre les coopératives en amont, les coopératives en aval, et ils achètent leurs produits à la coopérative, ils le vendent à la coopérative. Ouais. Non, mais ils ont une marge de manœuvre qui est pas si grande que ça. Par contre, les dirigeants des coopératives ou les dirigeants des syndicats majoritaires, il n'y a pas de souci. Hein.
Et eux, ils sont pas sensibilisés aux semences paysannes.
Bah,
il n'y a pas d'intérêt pour le monde agricole, je veux dire paysan, qui produit des choux, des carottes, des pommes de terre, des tomates.
Non, mais
d'avoir accès à cet échange-là.
On est dans un système qui est extrêmement puissant, qui tient aussi toutes les écoles d'agriculture et tout ça. Mmh. Les jeunes qui rentrent là-dedans, ils sont formatés. Alors c'est vrai que c'est en train de changer tout ça, mais ça change pas vite. Et puis en plus, quelqu'un qui est habitué à l'agriculture productiviste, si du jour au lendemain il arrête les pesticides, il risque de rien avoir le lendemain.
C'est pas faire.
Non, mais voilà, je veux dire, moi je blâme absolument pas les agriculteurs. Ils sont dans un système complètement pervers, qui maîtrisent pas, il faut en sortir, on ne peut pas en sortir très rapidement, mais il faut en sortir. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est qu'ils empêchent les autres initiatives d'arriver à se pointer, et notamment avec les semences paysannes qui sont toujours très contrôlées.
Non, parce qu'on peut imaginer que les agriculteurs seraient intéressés par avoir ce levier supplémentaire,
mais
finalement.
Mais il y en a, enfin, moi je suis pas agriculteur, mais j'ai des amis qui sont agriculteurs en bio, tout ça, et de plus en plus, ils voient les copains qui viennent leur dire, mais on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout ça. Hein.
Très bien.
Mais ça, ils le disent pas.
Très bien, très bien.
On n'a pas vraiment parlé aussi et développé le problème des semences pour les pays du tiers-monde. Et en préparant l'émission, j'ai lu des articles sur des agriculteurs dans les pays du tiers-monde, comme en Inde, au Bangladesh ou dans d'autres pays. Et j'ai été surpris, j'ai vu qu'il y avait eu plus de 2 millions d'individus chaque année qui tentaient de se suicider en buvant des pesticides, enfin, ou des différents intrants. Et ça provoquait quand même 250 000 morts par an, juste causées à cause de... enfin, qui boit les pesticides.
Oui, alors ça, c'est surtout en Inde que ça s'est produit, hein, avec le coton. Ça a commencé avant les OGM, hein, mais ça a continué avec les OGM. Et c'est vrai qu'ils ont une façon particulière de réagir quand ils sont ruminés. Mais si vous voulez, le problème des semences, c'est un peu comme les excès de notre agriculture quand on les envoie dans les pays du tiers-monde, c'est une catastrophe. Hein. Actuellement, il y a encore 50% des semences qui sont produites par les paysans. Hein. C'est un marché colossal. Qui fait rêver certains, c'est facile à imaginer, mais il faut surtout pas leur envoyer des semences, surtout si c'est des semences des hybrides ou si c'est des OGM et tout ça. Et par contre, ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors il y a quand même en Haïti par exemple, quand il y a eu le désastre, ils ont voulu leur forger des hybrides. Ils ont dit nous on veut pas d'hybrides parce qu'on perd notre indépendance. Et là alors il y a quand même tous les mouvements internationaux qui luttent pour ça, notamment la Via Campesina, hein, et la notion de semences paysannes produites par le paysan, c'est extrêmement important. Puis avec tous les échanges, mais c'est un marché colossal, hein, à prendre.
Bien sûr.
J'ai une question en fait. Je plante des tomates. Enfin, je me fais des semis de tomates et du coup, après récolte, je décide de garder les graines pour ressemer. Oh. Et c'est possible ou pas? Apparemment, on m'a dit qu'il y avait des graines qui étaient stériles, enfin qui.
Ah. Voilà, la bonne question. J'avais pas compris le début de la question.
Oui, enfin,
non, mais effectivement, on va parler un petit peu des hybrides, parce que ça, je pense que c'est très important. Bon, les semences dont on parle ici, c'est des semences population qui se reproduisent, qui peuvent bouger un peu. De toute façon, elles sont là pour s'adapter au climat, aux méthodes culturelles et tout ça. Bon. Mais les semenciers ont inventé, ça date d'avant la guerre, hein, ils ont inventé les hybrides, ce qu'on appelle F1. Alors ce sont des hybrides qui sont composés, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais de deux lignées parentales très différentes l'une de l'autre. Hein. Donc quand ils les recroisent, ça fait une première production qu'on appelle la F1, qui est très bonne, très productive, à condition d'y mettre les intrants, hein, qui vont avec, hein, bien sûr. Mais ça fait... Par contre, si vous prélevez une partie de cette récolte, pour faire de la semence, eh bien là, ça ne marche pas. C'est pas stérile, hein. C'est une erreur de dire que c'est stérile. Ce n'est pas stérile, mais ça donne suffisamment n'importe quoi pour qu'on ne le réutilise pas comme semence. Donc à partir du moment où on fait rentrer les F1 dans un pays, hein, notamment le maïs, mais pas seulement le maïs, eh bien les gens ne font plus leur semence. Et c'est ce qui s'est passé directement après la guerre. Le maïs hybride, d'abord américain et après français, il est rentré dans les champs des paysans et ils ont perdu leur semence. Hein. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de gens, et puis on peut en retrouver au maïs au Guatemala, parce que c'est quand même les patries du maïs. Il y a un certain nombre de gens qui refont du maïs population, même en France. C'est marginal, mais ça existe. Et l'important, c'est de pas perdre la semence. Quoi.
On peut avoir est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il y ait du F1 bio? Est-ce que c'est possible?
Ouais. C'est pas interdit dans le cahier des charges.
Non, ça, c'est assez sûr. Non, c'est fou. Donc la personne.
Mais c'est même l'inverse, parce que moi, il y a un producteur bio, un maraîcher donc, hein, qui me disait que pour que lui, il ait l'autorisation de vendre ses tomates sous le label bio, il doit assurer une traçabilité. Et donc acheter ses graines chez un fournisseur. Et en gros, souvent, les fournisseurs fournissent des hybrides. Oui, mais souvent.
Les potagères maintenant, je connais pas la proportion exacte, mais c'est de plus en plus des hybrides. Parce que si les jardiniers, parce qu'on va avoir de plus en plus de jardiniers hein, avec les problèmes qu'on a maintenant. Oui. Si les jardiniers se mettent à produire leurs semences, c'est quand même un gros problème pour eux. Hein. Donc ils font des hybrides. Et c'est vrai qu'avec des hybrides, des tomates, j'avais pas pensé que t'allais dire ça, mais avec ces tomates, si ce sont des hybrides, t'auras des tomates, mais probablement de mauvaise qualité. Hein. Ça ne
sans
se reproduit.
Goût,
Ah, oui, ça dépend de ce qu'ils ont mis comme parents. Hein. Après, c'est comme un enfant, hein, il tient des deux parents, hein, voilà. Et si les deux parents sont très différents, on a pas mal de cas de figure. Quoi.
Allez, on rappelle quand même ce que c'est Matofini, hein, il est 17h55, les moyens réels donc de résister à l'échelle donc individuelle en tant que citoyen, et puis après à l'échelle des coopératives et même plus haut.
Je pense que s'il y a des jardiniers qui nous écoutent, il faut plutôt qu'ils commandent chez les artisans semenciers. Hein, ça c'est une chose. Après il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de semences. Enfin, je pense qu'il y a un aspect politique de dire pour la biodiversité et pour l'appropriation du vivant, n'importe qui peut le dire et n'importe où. Ça. Je veux dire, ça parle assez bien, donc il faut que ce sujet rentre dans le débat public. Et donc j'ai parlé des artisans semenciers, et il y a aussi des associations. L'association dans laquelle je suis, Pétaniel, eh bien, on fait de la conservation, du renouvellement, et on remet en culture des variétés population. Ça s'appelle Pétaniel, il y a un site, il suffit d'aller dessus, mais il y en a énormément. Alors, dans la région, c'est plutôt Pétaniel, mais vous avez des tas de petites organisations qui font ce genre de choses.
Et pour encourager les gens à retourner à la terre, on peut aussi parler des jardins partagés sur Toulouse.
Oui, alors moi je suis dans les jardins familiaux, c'est pas les jardins partagés, mais c'est vrai que l'agriculture urbaine et périurbaine est en train de prendre une importance très grande. Et d'ailleurs, je peux l'annoncer le 23 juin, sur la commune de Pimbalma, il y aura une grande journée autour de ces thèmes-là, parce qu'il y a un projet assez important d'installation de paysans sur la commune, et donc il y aura un événementiel qui portera un peu sur ces sujets-là, sur l'agriculture urbaine et périurbaine, le 23 juin à Pimbalma.
Et on rappelle quand même la sortie du film de Pierre Rabhi, Au nom de la Terre. Qui est quand même assez intéressant, surtout lorsqu'il rappelle qu'avant de manger, maintenant, on va plus se souhaiter bon appétit, mais plutôt bon courage. J'ai trouvé ça très marrant. Bref, et donc voilà, donc ce film est à voir dans toutes les salles indépendantes actuellement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein,
ouais, on avait dit. Alors peut-être qu'on. Donc, est-ce qu'on a quelque chose pour. Une conclusion sur les aspects semences, alimentation.
Oui.
À part acheter vos semences chez Biogerme, Graines del Pays ou dans les associations.
Oui, retournez. Et il y a une chose aussi, c'est que les banques de semences comme celle de l'INRA, ces banques-là sont de moins en moins financées. Celles qui sont financées, c'est celles qu'on trouve en Norvège, là, et financées par Bill Gates, Syngenta et compagnie. Et donc ces banques-là, on a un devoir pour nos enfants, nos petits-enfants, d'aller chercher les graines et de les remettre en culture pour qu'elles dépérissent. Ouais. Donc ça, c'est les associations qui s'en occupent. Mais on fait partie des associations qui s'occupent de ça. Mais ça, c'est, je dirais, un devoir vis-à-vis des générations futures.
Donc tous au potager. Merci Michel. On a un petit agenda local sur les semaines qui viennent.
Oui.
Anouk, tu peux.
On rappelle encore demain la manifestation unitaire à l'appel de plusieurs syndicats contre l'accord national interprofessionnel. Sinon, demain aussi, ATTAC, les Amis du Monde Diplomatique, Solidarité Ville et Terra Nova organisent une rencontre avec Elisabeth Pellegrin-Genel sur son livre Une autre ville, sinon rien. Donc une rencontre à 18h à la librairie Terra Nova et ensuite une conférence débat à 20h30 espace Duranty. Le 13 avril, le CAC 31 organise un forum contre l'austérité pour des alternatives. Ça se passe au Mirail à l'université à partir de 14h où il sera question de la réforme bancaire, des liens aussi entre austérité et prostitution et aussi l'équipe, la délégation toulousaine du retour du FSM qui présentera un peu ce qui s'est passé et pour faire le lien aussi avec les nouvelles perspectives avec notamment l'Alter Sommet d'Athènes en juin. Et le 23 avril, il y a Partageons les Jardins qui projette la voie du vent à l'Utopia de Toulouse.
Voilà, Moi, je voulais rajouter dimanche 14 avril un troc-plante à Tournefeuille. Ça se fait entre voisinage, gens de même quartier. C'est le jardin familial de Tournefeuille qui vous propose d'échanger vos plantes, vos semences aussi. Vous pourrez poser la question de alors, est-ce qu'elles sont hybrides ou pas et,
oui, ils sont très intéressants, les jardins de Tournefeuille. Hein.
Ouais.
Je connais bien la responsable. Ouais.
Ils sont très productifs. Voilà, donc rendez-vous pris. C'est parti pour, un bon mois de semences.
Voilà.
Mais intelligemment.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et on vous dit donc pour ce qui est de la fabrique dans un mois.
On se retrouve le 13 mai.
Le 13 mai, pour être précis.
Même heure, 17h, toujours un lundi. On ne sait pas encore le thème de l'émission, peut-être sur les paradis fiscaux et la fuite des capitaux. Mais c'est en préparation, peut-être qu'on changera de thème, c'est pas sûr, c'est en cours.
Voilà.
On vous souhaite une bonne soirée, restez sur campus.
Voilà, par exemple.
Et portez-vous bien.
Allez, bonne soirée à tous, merci à tous.
Bonne soirée. Merci Magie.
Bonsoir.